des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Lima Ongnok, économiste, délégué national à l'économie au PS et membre de la boîte à penser La Forge. Alors cette semaine, Aligre fait une concurrence sévère à France Inter puisque vous pouvez écouter Lima Ongnok tous les matins à 6h50 en remplacement de Bernard Maris. Mais à Aligre, on lui laisse du temps, et même beaucoup de temps, puisque voici la deuxième émission d'une série de trois faite avec lui sur le Parti Socialiste. Je vous rappelle le contexte. Le malheureux était venu faire une émission en direct sur le rapport Attali le 12 février, et je lui avais demandé de rester après pour parler à bâton rompu devant le micro du Parti Socialiste. Je lui avais jeté en vrac toutes mes questions à la tête devant un café. La deuxième gauche, le rapport du PS à la souveraineté populaire, à l'Europe, et il a répondu pendant une heure et demie. Dans la première émission, il nous a expliqué essentiellement la coexistence au sein du PS de deux gauches. Suite aujourd'hui donc de notre entretien sur ce vaste mystère qu'est le Parti Socialiste.
Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans l'histoire socialiste, c'est qu'on a l'impression que notamment au XIXe siècle, le but était effectivement l'émancipation humaine qui passait par le fait de, on pourrait dire d'éduquer, mais pas de façon totalement encadrée, enfin, de donner la capacité aux gens de penser et de comprendre les choses. Et là, on a l'impression que les socialistes se sont complètement détournés de cela. Pourquoi ?
Bah, je vous parlais d'ère du temps. L'ère du temps est à la démocratie d'opinion. Effectivement, au XIXe siècle, la fonction d'éducation populaire du mouvement ouvrier était importante. Même tout au long du XXe siècle, les mouvements socialistes ont développé leurs associations d'éducation populaire et ont structuré le monde ouvrier, pas seulement sur les questions d'éducation, mais sur l'organisation des loisirs et de la vie sociale en général, sociale et culturelle. Là, on a l'impression que tout se passe à la télévision, et que ce sont les sondages qui importent avant tout aux hommes et aux femmes politiques dont la légitimité relève du bulletin de vote de nos concitoyens. Donc, ils sont rivés là-dessus. À tort, parce qu'ils ont oublié que la fonction première d'un parti politique, ce n'est pas de subir l'air du temps, mais c'est de le brasser. C'est de faire en sorte que des idées minoritaires, parce qu'elles subissent la domination de l'idéologie des classes privilégiées, c'est que ces idées minoritaires deviennent un jour majoritaires par le jeu de la démocratie. Et pour cela, il faut naturellement, non pas subir l'air du temps, mais le brasser. Alors aujourd'hui, on a des gadgets comme la démocratie participative qui doit être aujourd'hui démystifiée. Ceux qui organisent des réunions où vous avez tout le monde en rond autour d'une madone sont les premiers à refuser le référendum lorsqu'il faut se décider sur des questions constitutionnelles clés. Donc la mystification durera qu'un temps, mais... Le gros problème, si vous voulez, là je vais vous faire du café du commerce, c'est que tant que les gens iront chez Carrefour, vous avez beaucoup de militants de parti qui resteront caissières dans le supermarché.
Et comment ça se fait que ce que et vous et moi nous pensons, c'est-à-dire qu'effectivement le but d'un parti politique doit être de brasser des idées nouvelles qui auraient vocation à devenir majoritaires? Comment c'est possible que des gens puissent s'engager en politique, à gauche, sans penser cela?
Je pense que ceux qui s'engagent le font sur des valeurs. Après, toute la difficulté pour eux est que dans une démocratie... les idées que vous défendez ne comptent pas si vous ne passez pas par les élections. Mais pour avoir le mandat, ça ne marche pas comme ça. c'est pas comme dans les livres. C'est pas vous levez le doigt et chaque citoyen peut se présenter comme il veut. Non. Il faut être passé par les arcanes des appareils politiques pour se faire désigner. Et c'est là que vous vous rendez compte que il y a des gens qui vivent de ça. Et qui sont pas prêts à... qui sont prêts à n'importe quoi pour conserver les places, quitte à changer d'idée en fonction du courant qui lui offrira la place.
Et ils se regardent quand même dans la glace ?
Ah bah tant qu'ils sont élus, ils pensent qu'ils ont la légitimité du suffrage universel. Et donc, ils se pensent en droit de changer de ligne tous les 4 matins. Ah, tant que vous avez la légitimité du suffrage, les idées importent peu. Je sens que je vous désespère. Mais c'est la réalité, hein. Il faut que les journalistes aillent voir comment ça se passe dans le fonctionnement des endroits où ça se décide dans ce pays.
Comment une première gauche pourrait renaître de ses cendres ?
Au cours de la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel, si vous prenez les arguments qui ont été développés par le camp du non de gauche, c'était des arguments très première gauche. Et si vous prenez les enquêtes qui ont été faites après l'élection, enfin le vote, pardon, vous vous rendez compte que 60% des électeurs de gauche ont voté non. Comme quoi, ils font pas grand-chose. Il manquait juste un émetteur. Et si nous avions eu un émetteur lors de l'élection présidentielle qui s'est déroulée 2 ans après, cela aurait pu servir de tremplin au retour des idées de la première gauche. Bon, malheureusement, ça s'est pas produit. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut pas confondre l'horizon de notre vie biologique avec l'horizon de l'histoire. L'ère du temps finira par se retourner, qui aurait prédit que la cote de popularité de Nicolas Sarkozy se retournerait si vite. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 5 ans. Mais là où les hommes politiques ont une responsabilité, c'est que un peuple sans parti, c'est un peuple désorganisé. Et pour qu'un peuple puisse disposer d'un parti, bah, il faut que des individus, c'est aussi simple que ça, prennent la direction d'un tel parti. Et c'est là qu'on est du domaine du pathologique. Et je vous assure que parmi les dirigeants politiques, bah, vous avez affaire à des hommes comme vous, des hommes et des femmes comme vous et moi, avec leurs qualités, leurs défauts et leurs doutes. Et certains ont peut-être trop douté de leur qualité après le 29 mai.
Des souris des hommes, toujours en compagnie de Lee Mong-nok, délégué national à l'économie au Parti Socialiste.
J'allais dire pendant ce que vous parliez de l'horizon de notre vie à nous, biologique, et c'est un horizon plus lointain. Est-ce qu'on va vraiment devoir... Parce qu'on sent, enfin moi j'ai l'impression en tous les cas que dans le peuple, effectivement, il y a un appel, un retour vers plutôt une pensée de première gauche. Et effectivement, il n'y a pas de dirigeant ou de parti qui est sur cette ligne-là. Pendant combien de temps le Parti Socialiste va-t-il se faire laminer comme il se fait laminer au fur et à mesure, sans entendre ça ? Ils sont sourds, réellement, ils ne se rendent pas compte, ou ils tiennent vraiment tellement à leurs idées de deuxième gauche ?
Bah, il est vrai qu'il y a une demande de service public, il y a une demande d'égalité, il y a une demande de redistribution, il y a une demande d'impôts justes. Il y a une demande d'engagement de l'État sur les grandes questions industrielles inhérentes notamment aux délocalisations, au dumping fiscal et social, etc. Bref, il y a une demande de retour à un volontarisme politique dont la première gauche était porteuse. Mais une première gauche qui a plus confiance en elle, parce que on lui a martelé depuis 1983 que la politique conduite entre 80 et 83 était débile. Je pense que on a toute une génération de dirigeants qui culpabilisent d'avoir fait les nationalisations, d'avoir fait l'impôt sur la fortune, d'avoir fait la cinquième semaine de congés payés, d'avoir fait les 39 puis les 35 heures, etc. Et c'est pour ça que je parle de défaite à la fois sociale et idéologique, parce que 1983, c'est ça, c'est une défaite sociale face aux marchés financiers, une défaite idéologique progressivement face aux thèses libérales qui ont imprégné dans la tête des gens, et notamment des dirigeants politiques, qu'on ne pouvait pas appliquer des politiques d'inspiration keynésienne, sans parler de politique plus volontariste. Un autre phénomène est la chute du mur. Si le compromis de 45 a pu se développer, c'est parce que vous aviez quand même des partis communistes qui étaient majoritaires à gauche. Et c'est parce que vous aviez la menace du char russe que la bourgeoisie à l'époque a consenti au développement de l'État social et a concédé, pouvait-elle le faire autrement, à la puissance publique, la reconstruction du pays. La situation a changé depuis. Il n'y a plus de bloc soviétique. Les excès du monde soviétique sont utilisés comme repoussoir à toute tentative de faire autrement. Et sur le terrain idéologique, la bataille a été remportée par les libéraux et les néoconservateurs, à tel point que la première gauche aujourd'hui est caricaturée comme étant la défenseur, du modèle soviétique, qu'elle n'a jamais été depuis 1920, tout du moins au sein de la famille socialiste. Lorsque les commentateurs à la mode nous disent « Mais quand est-ce que vous allez, vous autres archaïques, abandonner l'idée que l'économie de marché, c'est quelque chose de mal ? Quand est-ce que vous allez explicitement adhérer à l'économie de marché ?» Bon, sous-entendu, il y a l'idée que l'économie de marché, c'est le capitalisme financier d'aujourd'hui, et que qui n'est pas pour le capitalisme financier, qui est la version moderne du capitalisme, serait pour la défense du modèle soviétique. Or, entre le modèle soviétique et le capitalisme financier d'aujourd'hui, il y a toute une série d'alternatives possibles. Le compromis de 45 en est un, et il y en a d'autres à inventer, et qu'on peut inventer à l'échelle européenne ou nationale. Mais c'est ce débat-là qui n'a pas lieu. Parce que il y a un syndrome, qui est le syndrome de 83, sur lequel on n'est pas revenu et sur lequel toute une génération est encore sous le joug. Je pense que les nouvelles générations n'auront pas ce poids sur la conscience. Les trentenaires qui arrivent aujourd'hui, enfin qui vont arriver à maturité, seront, je l'espère, débarrassés de ce poids idéologique qui a plombé naturellement le débat politique depuis 20 ans. Au point que tous les leaders de la première gauche ont scrupule aujourd'hui à développer leur véritable point de vue sur l'analyse de la situation, ne serait-ce qu'économique, quoi.
Des souhaits des hommes, toujours avec Limo Ognok, et on en arrive tout naturellement à la question européenne.
Mais est-ce que des politiques keynésiennes seraient possibles actuellement dans un monde dans lequel les frontières ont été rendues plus que poreuses ? Est-ce qu'on peut être keynésien dans un seul pays ?
Mais vous savez, Le Keynes de 1936 était libre-échangiste. Et pour libre-échange, il s'est rendu compte que, contrairement à ce que l'on avançait déjà à cette époque, le libre-échange n'est pas porteur de développement harmonieux pour tout le monde, et notamment pour les pays en développement. Aujourd'hui, le projet européen, initialement, n'était pas un projet libéral. Hein. Lorsque Jacques Delors vend le projet européen à Mitterrand en 83, c'était pour dire « Ok, on fait une pause parce qu'il y a la spéculation contre le franc, on fait l'euro à l'échelle européenne pour mieux pouvoir appliquer en Europe la politique qu'on n'a pas pu faire en France. » Et le projet européen à l'époque est un projet keynésien, notamment dans les projections qui avaient été commandées aux experts à l'époque, où l'on avait établi des scénarios sur la base de politiques monétaires expansionnistes, sur la base de l'existence d'un budget communautaire permettant d'allouer des fonds structurels pour le rattrapage des zones en difficulté, et on avait considéré que l'Europe à 12 à l'époque était une zone économique beaucoup plus fermée que ne le sont les États-Unis. Et dans le cadre d'une telle économie cohérente et relativement fermée, on ne parlait pas de protectionnisme, mais on aurait même pu mettre à la frontière des 12 un tarif extérieur commun. D'ailleurs, il est prévu dans les textes. Eh bien, les projections établies montraient que les taux de croissance étaient supérieurs à 4%, avec des déficits extérieurs et budgétaires maîtrisés, justement parce que on avait une croissance importante. Mais ça supposait des budgets, ça supposait une banque centrale qui joue le jeu, ça supposait une harmonisation des normes sociales et fiscales, etc. Autant de choses qui ont commencé à être faites à 12, gros problème étant qu'à 27, à budget constant, avec une banque centrale qu'on contrôle pas et sans harmonisation, on a un projet libéral qui s'est développé. Mais les choses sont pas aussi binaires que ça. Le véritable plan B, personne n'en parle, mais le véritable plan B consisterait à repartir de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Eurogroupe, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu une Europe à 13 pays ayant adopté l'euro. Et ayant un vécu commun pour harmoniser un minimum ses normes, disposer d'un budget financé par ces 13 pays, et pourquoi pas par l'emprunt, et puis organisant un certain contrôle de la banque centrale. C'est ça un vrai projet euro-keynésien à l'échelle européenne. Il n'est pas inconcevable, sauf qu'on a mis la charrue avant les bœufs, on a fait l'intégration à 27... dans une zone de libre-échange sans institution, avec des pays qui ne sont pas dans l'euro, et du coup, la stratégie souverainiste, contrairement à ce que l'on pense, est celle qui est gagnante aujourd'hui dans l'Europe à 27, et les Britanniques ont une stratégie purement souverainiste, en n'étant pas dans l'euro, et en jouissant des procédures d'opting out, c'est-à-dire de non-adhésion à certaines clauses européennes, et ils s'en tirent beaucoup mieux que les autres pour cette raison.
Mais est-ce qu'on pouvait espérer, enfin, est-ce qu'il y avait un rapport de force à un moment quelconque qui eût été favorable justement à cette mise en place d'une politique euro-keynésienne?
On a raté le coche en 98 lorsque il y avait 13 gouvernements de gauche sur 15 en Europe. On a sans doute loupé le coche quelques temps après, peu avant l'élargissement, lorsque Joschka Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères allemand, nous avait proposé le scénario que je viens d'évoquer de l'Eurogroupe. C'est-à-dire, on fait une constitution sur la base d'une Europe à 13, avec une vraie Europe politique, un vrai budget, une vraie harmonisation, avant de faire l'élargissement. Et faire l'élargissement, c'était le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas d'Europe politique et pour que le point de vue britannique d'une zone de libre-échange où la stratégie souverainiste est gagnante s'impose. Et donc, c'est la stratégie britannique qui du coup, l'a emporté. Et le pire des symboles serait que Tony Blair soit désigné comme étant le premier président du Conseil européen élu par les chefs d'État du Conseil européen.
Mais ça montre bien de fait que de toute façon, il n'y avait effectivement pas un rapport de force politique. Officiellement, il y avait 12 des 15 pays qui avaient un gouvernement dit socialiste, mais avec quel socialisme ?
Bah, il suffisait qu'ils s'entendent entre pays membres de l'Eurogroupe. Sauf que c'est la position britannique qui, au sein de ces 15, l'a emporté. Parce qu'on a décidé de composer avec Tony Blair. Mais c'est un problème de géostratégie dans cette affaire. C'est pas un problème qu'on pouvait pas faire autrement. On aurait pu faire une véritable Europe politique à 10, à 12, enfin bon, avec ceux qui le veulent, une véritable Europe politique qui fonctionne, qui se dote d'une constitution, parce que ce noyau dur a quand même un vécu commun qui fait que, si on est un peu internationaliste, l'idée d'une nation européenne aurait peu à peu émergé. Enfin, je parle des pays du noyau dur de l'Europe, hein, Espagne, Italie, France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, là, vous avez quand même un sentiment européen, notamment chez les jeunes générations, qui est assez fort et suffisamment fort pour pouvoir concevoir un projet politique ensemble. Et si ce projet était suffisamment excitant, on aurait pu ensuite agréger des pays qui auraient voulu à la fois adhérer à l'euro et adhérer au projet politique. Bon, c'était ça qu'il fallait faire. Et au contraire, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une Europe à 27 qui était le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas d'Europe politique. Qu'on ait un compromis complètement bâtard où les vrais souverainistes ne sont pas satisfaits parce qu'il n'y a plus la souveraineté monétaire. Et puis les vrais fédéralistes ne sont pas satisfaits parce que c'est pas une Europe politique, c'est pas la France en plus grand. Et donc on a une situation complètement bâtarde que résume très bien la phrase de Lionel Jospin, une Europe d'État-nation, qui est un terme qui veut rien dire, et qui signifie qu'on est dans un milieu de guet qui satisfait personne et qui est en train de pousser l'Europe dans le mur. Parce que quand vous avez une monnaie unique, mais que vous n'avez pas de budget, que vous n'avez pas d'harmonisation, la seule façon pour que les déséquilibres puissent s'ajuster sur le plan technique, c'est la baisse des salaires. On ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est pas viable socialement, et ça mène l'Europe dans une situation de déflation généralisée qui ne présage rien de bon, ni économiquement, ni socialement, ni politiquement.
Et oui, c'était donc des sous et des hommes en compagnie de Lee Mong-nok, qui est donc délégué national à l'économie du Parti Socialiste, et donc pour la troisième semaine d'affilée. Alors la semaine prochaine, eh bien justement, nous ferons une petite pause dans la série de trois émissions faites avec Lim autour du Parti Socialiste. La troisième émission développera plus particulièrement le thème de l'Europe. Pause donc, et pause avec Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, sans doute un peu le diable en personne. Un souverainiste, comme ils disent, pour invalider tout ce qu'il dit. Et bien justement, pendant deux émissions, on va pouvoir écouter sur Aligre ce qu'il dit. À la semaine prochaine !